Radio Django à écouter sur radio.django.fr.
Il y a 2 semaines, on vous parlait ici dans le grand direct des Premières Nations au Canada avec Nicole Obomsawin et Menale de l'association Four Winds. Ce soir, c'est le 2e épisode autour de ces questions pour mieux comprendre les enjeux liés aux réserves des territoires encore soumis à la loi sur les Indiens. Cette loi remonte au 19e siècle, mais elle est toujours en vigueur aujourd'hui, Daniel.
Alors effectivement, introduite en 1876, c'est la principale loi qui permet au gouvernement fédéral du Canada d'administrer les Indiens, les gouvernements locaux des Premières Nations et qui s'occupe également de la gestion des terres de réserve et des fonds communautaires. Bien que modifiée donc en 1951, puis en 1985, cette loi peine à évoluer. Et depuis la création du Canada, en 1867, c'est toujours le gouvernement fédéral qui, en vertu de cette loi sur les Indiens, a la responsabilité des questions autochtones. Il contrôle la majorité des aspects de la vie amérindienne, comme le statut d'Indien. C'est le gouvernement qui dit qui est Indien et qui ne l'est pas, l'éducation et les ressources. Et c'est lui qui continue donc d'administrer les territoires des réserves. C'est pourquoi les réserves occupe aujourd'hui une place centrale dans les mouvements activistes autochtones.
Ce soir, nous retrouvons donc Nicole Obomsawin, originaire d'Odanak, dans la réserve Abenakis. Elle est anthropologue et muséologue de formation et responsable des relations autochtones interréserves et internationales au Québec.
On a créé de toutes pièces un endroit artificiel qui étaient des fois des endroits qui étaient fréquentés dans un certain moment de l'année. Par exemple, des rassemblements d'été. On a dit, là, maintenant, ça sera votre endroit permanent. Mais ça s'est fait de 1850 jusqu'à 1900 quelques, les premières réserves. Plus on va vers l'ouest, plus c'est tard. Hein, plus on est dans l'est, au Québec, 1850. Mais à partir du moment où, parce qu'on devait pour avoir les provinces de l'Ouest, pour avoir, par exemple, la Manitoba, pour avoir l'Alberta, pour pouvoir coloniser ou pour pouvoir, habiter ces terres-là, ben là, il y avait plein d'Indiens partout. Donc, on disait, ben là, on va réunir ces Indiens-là, on va leur faire signer un pacte. Et on va leur dire, maintenant, voilà, vous devez signer ici, vous allez avoir une réserve. Puis, plus on était au nord, plus la réserve était grande. Plus on était au sud, plus c'était restreint parce qu'on avait besoin de l'espace. Donc, on devait signer. Puis, souvent, les Premières Nations ne savaient pas écrire, ne savaient pas lire. Donc, il y avait des interprètes. Et on leur disait que s'ils ne signaient pas, de toute façon, il y aurait pas. Il fallait qu'ils signent parce que s'ils signaient, ils pourraient avoir certains avantages.
Justement, j'allais vous demander quelle était la contrepartie.
Oui, on donnait certains avantages. Et plus on s'en allait vers l'ouest, plus les avantages ont été, même si aujourd'hui c'est insignifiant, ces avantages-là, pour le territoire qui a été pris. Mais parce que les nations s'étaient dit entre elles, nous autres, on a demandé ça, mais demandez plus. Et donc, on a donné un peu plus. Il y a des endroits où on a donné une pharmacie. Une pharmacie avec ce qu'il fallait dedans. On leur a dit, par contre, qu'il y avait l'éducation et qu'on s'occuperait de leur santé. Et c'est encore ça, dans la loi sur les Indiens, aujourd'hui, qu'on fait valoir quand on veut. On dit, là, vous avez indiqué dans vos traités, dans vos échanges, que vous prendriez soin de notre santé et de notre éducation. Donc, maintenant, on exige que vous soyez cohérent avec ce que vous dites. Alors, c'est sûr que, c'est ça, c'est encore là dans la loi. La loi sur les Indiens continue de s'appliquer, puis il y a plein de choses qui sont absolument dépassées, là. En tout cas, on a beaucoup de revendications par rapport à cette loi-là qui est toujours en vigueur et qui fait qu'on est considéré encore aujourd'hui en marge de la société canadienne et québécoise.
Où vivent les Premières Nations au Canada? Comment elles sont réparties sur le territoire?
Il y a 600 bandes. Alors, parce que le terme est encore utilisé aujourd'hui.
Par les Indiens?
Non, le bande, c'est un terme qui est inscrit dans la loi sur les Indiens. Donc, qui vraiment décrit les gens qui vivent dans un endroit précis, donc une réserve. OK? Donc, ces gens-là, des banques. Donc, il y a 600 bandes de groupements qui varient entre 100 personnes et puis 2000 ou 6000 personnes. Donc, la grosseur est un peu différée, mais il y a 600 bandes au Canada. Donc, un peu partout. Au Québec, on a 54 communautés. Moi, je dis communauté, donc village, endroit, où on va retrouver des Autochtones qui vivent là de façon permanente. Mais il y a beaucoup d'Autochtones qui vivent en ville maintenant. Alors, si on parle dans l'Ouest, quand je parle de l'Ouest, c'est à l'Ouest de l'Ontario. Donc, à l'Ouest de l'Ontario, il y a, je dirais que les Autochtones en ville, c'est à peu près 60 % et 40 % dans les villages ou les communautés. Alors qu'au Québec, c'est l'inverse. On a 60 % qui vivent encore dans leur communauté et 40 % dans la ville.
Et comment ce phénomène s'explique?
Ben, ça s'explique parce que les gens veulent travailler, les gens veulent étudier. Donc, les gens quittent leur communauté pour aller étudier. Si on veut aller à l'université, il n'y a pas d'université dans nos communautés. Il faut sortir, il faut aller à l'université. Et puis, ben, pour trouver du travail aussi, y a surtout Québec. Alors, les grandes villes Québec, Montréal, c'est des endroits où siègent des associations, où travaillent des associations pour les Autochtones qui sont là. Donc, les gens vont travailler là. Comme l'Association des femmes autochtones engage peut-être une trentaine de gens. Alors, il y a des gens comme ça qui s'engagent dans des associations et d'autres dans d'autres milieux aussi.
Et quand on parlait de la répartition sur le territoire, est-ce que c'est lié donc, à la loi sur les Indiens promulguée en 1876?
Oui. Les réserves, c'est une création de cette loi-là.
Et que dit cette loi? Parce que c'est des textes coloniaux.
Oui, oui. Oui. Alors,
dans
cette
loi, les grandes lignes.
Oui. Alors, cette loi-là, en fait, c'est une loi qui pensait à l'origine que les Indiens, parce que c'est comme ça qu'ils étaient appelés, c'était un État. Donc, on pouvait, on passait de moins civilisé à plus civilisé. Puis à partir du moment où on devenait civilisé, on était assimilé. Donc, en étant assimilé, on devenait des Canadiens à part entière.
Et comment on devenait civilisé?
Et donc, c'est ça. Donc, en quittant sa communauté. Alors, le but de faire des réserves, c'était éventuellement de prévoir qu'il n'y en aurait plus de réserves et qu'il n'y aurait plus... Parce que le Canada disait qu'il était pris avec un problème indien. Alors, il y avait des problèmes avec les Autochtones, des problèmes un peu partout. Donc, on a dit, en les mettant dans des réserves, puis en faisant en sorte qu'il y ait des droits moindres, ils vont vouloir sortir pour avoir les mêmes droits que les autres. Et donc, en sortant, ben, ils vont devenir comme les autres. Et donc, là, il n'y aurait plus de problème indien, il n'y aurait plus d'Indiens. Alors, c'était l'abus de cette loi-là, et c'était en pensant que les réserves étaient des endroits temporaires. Mais finalement, on se rend compte que non seulement c'est temporaire, mais les gens, il y a eu plus de gens qui ont... Maintenant, les réserves sont de plus en plus... la population est de plus en plus grande.
Mais cette loi n'est plus en vigueur.
Eh bien, oui. On est toujours sur cette loi-là. C'est ça qui fait que aujourd'hui les gens revendiquent. Qu'est-ce qu'on revendique? Parce que on est encore prisonnier de cette loi-là. Si on est sur une réserve, on a cette loi-là qui nous enlève encore, qui nous prive encore des droits comme les autres Canadiens. Alors pour ça, il faudrait qu'on quitte nos réserves. On veut pas quitter parce qu'aujourd'hui on se dit ici on peut maintenir une culture.
Donc on vous demande de renoncer à votre culture indienne.
Ben on ne dit pas clairement
non,
maintenant, mais on disait ça avant et aujourd'hui la loi sur les Indiens qui est toujours en application fait en sorte que les gens ont supposément des privilèges de ne pas payer de taxes. Hein, c'est ça, souvent, les gens disent « Ah oh oui, mais ils ne payent pas de taxes foncières. » Ben non, la terre nous appartient et toute terre, tout le territoire autour aussi. Donc, on ne paye pas pour la terre.
Il n'y a aucune raison que vous payez.
Ben non, donc on ne paye pas de taxes foncières. Mais le fait de ne pas payer de taxes et de taxes aux provinces, ben on n'a pas les droits et qui vont avec que les payeurs de taxes ont, par exemple. Par exemple, nous autres, pour aller à l'école à Pierreville, comme on n'est pas payeur de taxes, parce que pour aller à l'école, il faut payer des taxes scolaires, hein? Tout le monde paye des taxes scolaires autour, sauf nous. Donc, comme on ne paye pas de taxes scolaires, ben on doit payer un montant qui équivaut à peu près autour de 7 000 $ par enfant, par année, pour envoyer nos enfants à l'école. Sinon, l'école publique du Québec n'éduquerait pas nos enfants gratuitement. C'est plein de choses comme ça que les Québécois savent pas, qui font en sorte que encore aujourd'hui, les gens disent, mais pourquoi vous restez dans une réserve? Quittez la réserve et vous allez avoir les mêmes privilèges que toi. Mais oui, mais c'est ça. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, la réserve n'est pas vue comme une prison, elle est vue comme un refuge pour garder la culture. En tout cas, beaucoup la voient comme ça. Puis ceux qui ne voient pas ça comme ça, ben, ils quittent la réserve.
Et comment s'administrent ces réserves? Tout à l'heure, on a parlé du conseil de bande.
Oui.
Donc là, c'est des partenariats entre le gouvernement canadien et la communauté en question.
Oui, c'est ça. Mais aujourd'hui, il y a des intermédiaires qui sont... les chefs se sont regroupés ensemble pour être capables de, justement de partager l'information. Parce que chacune des provinces a son association de chefs. Donc, l'Association des chefs des Premières Nations. Ça porte des noms différents, mais ici au Québec, c'est l'Association des Premières Nations du Québec et du Labrador. Donc, et ça regroupe les chefs de 44 communautés, en fait. Parce que les Inuits ne sont pas considérés comme Premières Nations parce qu'ils ont un statut particulier. Ils sont pas partagés dans les réserves. Ils n'ont jamais été mis en réserve. Les Inuits ont été mis dans des villages et les villages sont considérés maintenant comme des municipalités, donc comme toutes les municipalités au Québec. Donc, ils sont considérés... Et celui qui est élu pour gérer la municipalité, c'est un maire, comme tous les maires du Québec. Donc, c'est vraiment un système qui est différent. Donc, pour les Premières Nations, il y a l'association qui regroupe 44 communautés de différentes nations et qui élisent entre eux un grand chef qui est le porte-parole de leur association. Donc, lui, il ne peut pas décider tout seul, il parle au nom des autres. Et puis, il y a une assemblée nationale.
Au sein des Premières Nations?
Oui.
D'accord.
Une assemblée nationale qui représente... Donc, il y a un chef national qui est le vis-à-vis du premier ministre, qui va aller négocier des choses avec le premier ministre. Le premier ministre va aller rencontrer, bon, etc.
Et dans les objets de négociation, ça touche la santé, l'éducation?
Oui, beaucoup.
Le travail, le marché du travail?
Oui.
Est-ce qu'on a le droit de travailler dans une réserve?
Ah, oui, oui.
On développe des emplois?
Ben, on essaie d'en développer. On essaie de développer des emplois, mais c'est comme l'employeur principal, beaucoup, c'est le conseil de bande. Ben, il y a des limites, dépendamment des sommes qui sont allouées. Ben, mais c'est quand même, la plupart du temps, le conseil de bande, aujourd'hui, est le plus gros employeur des communautés.
Et oui, l'État canadien, avec cette loi sur les Indiens, est à l'origine d'un régime qui consacre un statut donc particulier aux autochtones, qui, hier comme aujourd'hui, continue à dénoncer les inégalités entre les Premières Nations et les autres citoyens du Canada. Pour améliorer les relations entre ces deux mondes, eh bien, il paraît essentiel que le gouvernement fédéral du Canada continue des efforts, et notamment en direction des 94 recommandations émises par les Autochtones. On aura l'occasion de découvrir en détail tout ça dans le troisième volet de ce triptyque. Et puis, bien sûr, vous retrouvez cette chronique en podcast sur Facebook, et on vous y mettra un titre de The Northern Cree qui s'appelle « Facebook Drama ».